Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Poutine et la guerre en Ukraine. Notre invité est Jacques Beau, ancien colonel d'état-major général, ex-membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est, formé dans les services de renseignement américains et britanniques. Jacques Beau a été chef de la doctrine des opérations de paix des Nations Unies. Il a été engagé dans des discussions avec les plus hauts responsables militaires et du renseignement russe juste après la chute de l'URSS. Et au sein de l'OTAN, a suivi la crise ukrainienne de 2014, puis a participé à des programmes d'assistance à l'Ukraine. Son dernier ouvrage, Poutine, maître du jeu, point d'interrogation, est paru récemment aux éditions Max Milo. Jacques Beau, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre regard, Jacques Beau, sur le conflit à ce stade, 7 semaines après le début de l'entrée des troupes russes en Ukraine? Et 7 semaines, on a entendu Joe Biden qualifier l'action des Russes de génocide. On voit là une escalade de joute verbale de la part du président américain. Est-ce que les Américains préparent quelque chose, d'après vous, Jacques Beau?
Je ne sais pas si les Américains préparent quelque chose, mais il est clair que ce conflit, il a en fait 2 dimensions qui me frappent. Alors, tout d'abord, il y a le côté tragique de la guerre. C'est quelque chose que j'ai connu dans le terrain, vraiment, parce que j'étais pour les Nations Unies, notamment, sur plusieurs théâtres d'opération. Donc je sais, la guerre, quelle qu'elle soit, qui qu'en ait été l'auteur et l'initiateur, c'est une chose qui est terrible. Et ça, je tiens à le souligner ici. Mais il y a une 2e dimension qui me frappe et qui a un peu motivé mon ouvrage. C'est ce qu'on n'a pas vu dans les autres conflits. C'est l'hystérie qui l'accompagne un peu partout, notamment dans le monde occidental. Et en fait, je dirais que la question qui a dominé mon ouvrage, c'est pourquoi est-ce que ce conflit est plus blâmable ou plus sanctionnable qu'un autre ?
La réponse.
Et on n'a pas vraiment de réponse à ça parce qu'on n'a jamais sanctionné les autres conflits, les tortures que nous avons pratiquées, que certains pays occidentaux ont fait, que certains alliés des occidentaux ont fait. Donc qu'est-ce qui fait que ce conflit est aussi vu aussi terriblement de la part de l'Occident? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais je pense qu'il faut se poser cette question parce que dans les pays, notamment en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, les gens se posent cette question. Et on l'a très bien vu au Conseil de sécurité. Et on le voit très bien quand on regarde la carte du monde de ceux qui ont soutenu les sanctions ou qui soutiennent les Occidentaux dans leur démarche à l'égard de la Russie. Et je pense qu'on est en train sans doute de satisfaire de vieilles rancœurs en Occident. Mais on est en train, au-delà de tous les problèmes économiques qu'on peut aborder à propos de ce conflit et qui seront les victimes collatérales de ce conflit, il y a un prix que l'on va payer dans l'hémisphère sud. Et on commence à le voir. Je pense que ce conflit a été ou est l'occasion d'une perte de confiance dans l'Occident qui, à mon sens, va avoir des conséquences à très long terme.
Alors, Jacques Beau, on reviendra sur perte de confiance en l'Occident. J'ai cette question. On a vu les Américains quitter Kaboul en août 2021. Est-ce que, d'après vous, cette guerre en Ukraine, cette invasion russe de l'Ukraine, aurait pu se produire sous Donald Trump?
Probablement oui. Parce que Donald Trump, contrairement à ce qu'on croit, n'était pas tellement favorable à Poutine. Ça a été l'image qu'on a donnée aux États-Unis, mais on est plutôt là dans un discours politicien, en fait, entre démocrates et républicains. D'ailleurs, on a dit plus tard, quand il y a eu les élections qui ont amené au pouvoir Joe Biden, on a dit que les Chinois voteraient contre, enfin, soutiendraient Biden et les Russes soutiendraient Trump. Bon, je pense qu'on est un petit peu dans la caricature. Ce conflit, il aurait pu de toute façon venir, quelles que soient les circonstances, parce qu'il était, prévu depuis longtemps. Et quand je dis prévu depuis longtemps, je ne veux pas dire qu'on avait nécessairement planifié tous les aspects de ce conflit. Mais c'est intéressant de voir que Oleksiy Arestovitch, qui est un des conseillers de Zelensky d'ailleurs, donc ukrainien, en 2019, il a donné une interview extrêmement intéressante où il explique pratiquement exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Mais pratiquement exactement. Et on voit que, en fait, les Ukrainiens, à tort ou à raison, et je pense à tort, mais pas pour leur tort, mais surtout pour le tort des Occidentaux et des Américains en particulier, qui leur ont fait miroiter une accession à l'OTAN facilitée dans une situation de conflit. Et Oleksiy Arestovitch décrit exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est assez frappant et on pourrait d'ailleurs se demander s'il n'y a pas eu un calcul beaucoup plus pervers et beaucoup plus...
Vous parlez de manipulation américaine.
Je parle de manipulation américaine, mais contre l'Ukraine, enfin pas contre l'Ukraine, au moyen de l'Ukraine. Les Américains, et il y a des stratégies qui ont été établies d'ailleurs sous Trump, qui expliquent comment isoler la Russie du reste du monde. Et il y a tout le mécanisme des sanctions, tout ça est décrit dans le détail. Il y a deux études qui ont été faites par la RAND Corporation. RAND Corporation est un think tank qui a été créé juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour réfléchir sur les questions stratégiques, notamment la stratégie nucléaire à l'époque, et puis qui est restée, cette organisation est restée, et elle conseille le ministère, le gouvernement américain en plus largement sur les questions stratégiques. Et là, il y a deux documents qui ont été établis en 2019, qui explique, mais vraiment en long, en large et en travers, et dans tous les détails, et avec en or sur blanc, il n'y a pas besoin d'avoir besoin de beaucoup d'imagination. La Russie est nommée, il s'agit d'isoler la Russie, de montrer comment faire, de distribuer des armes à l'Ukraine, tout ça est décrit par le menu. Donc, il y a une manipulation très claire des Américains, et je pense que on a. Et c'est pour ça que mon livre, en fait, quelqu'un. Et certains ont dit que je prenais la ligne de Poutine. C'est pas exact.
On a effectivement l'impression que vous défendez Vladimir Poutine certaine mesure.
Je défends l'Ukraine, en réalité. Je défends l'Ukraine. Et le problème est que l'Ukraine a été vraiment instrumentalisée dans cette affaire. Et Zelensky lui-même, d'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises, nous ne voulons pas, on écarte ça de nos nouvelles, mais il l'a dit à CNN très clairement, il s'est senti trompé. Le problème de Zelensky, c'est qu'il est... En Occident, on a essayé de donner une image noir-blanc de ce conflit. Mais il y a à l'intérieur de l'establishment ukrainien, il y a des forces au pluriel au centre desquelles se trouve Zelensky qui font qu'il n'est pas totalement libre de ses décisions. Et on le voit très très bien d'ailleurs, à chaque fois qu'il propose quelque chose en vue d'une négociation, en vue d'un rapprochement, pas de rapprochement, il ne veut pas se rapprocher avec la Russie. En revanche, il voit bien que la situation est grave, il voit bien que la population ukrainienne souffre, et il essaye de trouver des solutions, mais il y a des forces qui l'en empêchent.
Alors, ce sont quoi ces forces et quelles sont les tendances, Jacques Beau?
Alors, il y a d'abord les tendances d'extrême droite, littéralement. On a beaucoup minimisé ça ces derniers temps, mais là aussi, je n'invente rien, car mon livre, certains ont dit oui, c'est le discours que tiennent les Russes. Alors, si vous lisez mon livre, vous verrez qu'il n'y a pas une seule source russe. Je ne fais absolument pas référence à ce que disent les Russes. Pratiquement tout vient de ce que disent les Américains, les services officiels, y compris les services de renseignement américains. Car une chose, il y a aussi une question dans notre perception qui est un peu faussée. On a, et beaucoup de spécialistes du renseignement, pas seulement américains d'ailleurs, mais du renseignement, des grands services de renseignement, je ne vais pas vous dire lesquels maintenant, mais c'est des grands services européens, qui constatent que toute cette crise a été gérée par les politiques, pas par le renseignement. Et les informations de renseignement qui sont venues, les vraies, elles sont pratiquement inexistantes. Dans tout le développement de la crise. Et ça, c'est extrêmement frappant et montre qu'en fait, il y a eu une instrumentalisation d'une situation par les politiques, par les politiques qui ont exploité et d'ailleurs, il y a eu récemment un article de CNBC là-dessus, d'ailleurs, qui est assez intéressant, qui montre qu'on a systématiquement exploité des informations où les services de renseignement étaient dubitatifs, où ils pensaient qu'on n'arrive pas très bien à dire ce qui s'est passé. Et les politiques, eux, ont tiré, en fait, la couverture de leur côté, ont extrapolé.
Je vais vous citer hein, sur les services de renseignement. Vous vous dites frappé par l'absence totale des services de renseignement occidentaux dans la représentation de la situation depuis un an. Et vous soulignez le rôle important des services des pays de la Nouvelle Europe dans le conflit actuel que vous décrivez comme mauvais sur le plan analytique, doctrinaire et dénué d'indépendance intellectuelle et politique nécessaire pour apprécier une situation.
Alors ça, je l'ai constaté moi-même. C'est pas une invention. Ce sont des services dans tous les, vous savez, chaque pays, ou les services de chaque pays a son histoire, en réalité. Et elle est, on voit encore aujourd'hui, d'ailleurs, les services français ont une histoire qui est fortement imprégnée de la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Et ça se retrouve dans les structures, encore aujourd'hui, de la DGSE, par exemple. Les Allemands ont aussi une histoire qui conduit aux structures actuelles, qui conduit à la mentalité. Chaque service de renseignement a une personnalité très particulière. J'ai eu le privilège d'être formé dans des services anglo-saxons, mais d'avoir travaillé avec pratiquement tous les grands services européens.
Mais là, ceux que vous pointez, ce sont qui? Les services polonais?
Les Polonais principalement, lituaniens, qui ont été très actifs pendant toute cette crise en apportant des informations, notamment à l'époque où j'étais, donc je parle de la période 2014-2017, c'est l'époque où je l'ai vu, effectivement, physiquement. Et là, on avait pratiquement toutes les informations venaient d'eux. Et on voyait que c'était de l'information qui était plus de la spéculation, en réalité, que du renseignement. Par le renseignement, en termes techniques, c'est un produit, c'est le résultat d'une analyse. C'est pas simplement des informations qu'on jette comme ça en pâture au monde. Et là, avec ces services, on sent qu'ils n'ont pas la même culture de renseignement au sens de l'analyse du terme. Ils ont une culture qui est restée malgré tous les changements. Je connais très bien leurs changements constitutionnels. Je connais d'ailleurs, il se trouve que j'ai fait mes études, une partie de mes études instituées aux études internationales à Genève, où certains ministres d'ailleurs des pays de la Nouvelle Europe ont été aussi. Donc j'en ai côtoyé quelques-uns. Il est resté malgré tous les changements, malgré la volonté de changement, il est resté une culture leur culture reste imprégnée de ce qui s'est passé, notamment dans les services.
Alors Jacques Beau, Vladimir Poutine a-t-il été mal renseigné par ses renseignements sur la capacité de résistance des Ukrainiens?
Non, je ne pense pas. Je pense que ce qui fausse notre perception, c'est notre surévaluation de la résistance des Ukrainiens. Et quand je dis des Ukrainiens, je veux dire de la population ukrainienne. Les militaires ukrainiens, je pense que c'est des gens qui se battent avec conviction et détermination. Et je pense que ça a été très bien mesuré par les Russes. Donc, je parle de l'armée ou des forces armées ukrainiennes. En revanche, la population, je pense que c'est nous qui surévaluons le problème. Car quand vous voyez dans toutes les régions où sont les troupes russes aujourd'hui, c'est la partie est de l'Ukraine, on voit que les choses se passent finalement pas si mal du tout. Et qu'il y a très peu de résistance. Il y a de temps en temps, on voit des manifestations de gens qui viennent avec des slogans « Slava Ukraini », etc. Donc, gloire à l'Ukraine. Mais on en reste à peu près là. Il n'y a pas de ce mouvement de résistance qu'on a tendance à imaginer de manière quelquefois un peu romanesque en Europe. Je pense que dans la partie ouest du pays, la chose serait très différente. Et je pense que les Russes le savent pertinemment bien. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont aucune intention, et je pense qu'ils n'ont jamais eu l'intention, d'aller dans la partie ouest du pays. D'ailleurs, si on s'en tient au discours que Poutine a tenu, notamment le 21 février et le 24 février, juste au moment de l'intervention, eh bien, on constate que les Russes se tiennent assez strictement à ce que Poutine a dit, c'est-à-dire la démilitarisation, c'est-à-dire retirer la menace militaire qui pesait sur le Donbass. Et La dénazification, on en a fait tout un... On a un peu monté ça en épingle. En réalité, il ne s'agissait pas de combattre le 2,5% de néo-nazis qu'il y a au Parlement ukrainien, mais de combattre les 100% de fanatiques ou d'ultranationalistes qu'il y avait à Mariupol, si je peux simplifier un peu la réflexion. C'est un peu ça, la dénazification. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a imaginé d'aller s'attaquer au Parlement. Non. Les Russes savent très bien qu'il y a une très petite partie de la population du Parlement qui est d'extrême droite. En revanche, dans la population, c'est un peu différent. Il y a un ultranationalisme. Et de nouveau, je n'aime pas le terme néo-nazi parce que pour moi, le terme nazi, ça correspond à une doctrine politique très particulière, très spécifique, avec des marqueurs, si vous voulez, très clairs. Alors que En Ukraine, on a des éléments qui combinent certains éléments. Il y a des éléments d'antisémitisme très clairs. D'ailleurs, ça a été un souci d'ailleurs du gouvernement israélien à l'égard de l'Ukraine. Je parle avant le conflit. Il y a des éléments ultranationalistes. Sont évidents. Il y a des éléments de brutalité. Donc, des tas d'éléments qu'on retrouve chez les néo-nazis, mais qui ne sont pas unifiés par une doctrine, si vous voulez. C'est une combinaison, plutôt une coïncidence de critères, si vous voulez, qu'une coordination de critères.
Alors, regardons ce qui va se passer, ce qui se passe maintenant avec une concentration, finalement, des actions russes sur le Donbass. Comment voyez-vous les choses, Jacques Beau?
Alors, actuellement, dans les faits, ce qu'on peut observer, c'est donc que le gros de l'armée ukrainienne se trouve actuellement encerclé dans la région du Donbass. Et ça, c'est d'ailleurs, ça devrait aussi un peu nous interroger parce que on a cru que, on a dit ou on a laissé imaginer que les Ukrainiens craignaient une invasion russe, mais ils n'ont pas disposé leur armée à la frontière russe. L'armée est encerclée autour du Donbass pour la bonne et simple raison que le conflit où l'offensive que Vladimir Poutine a déclenchée le 24 février répondait au début d'une offensive qui avait débuté le 16 février et qui a été observée d'ailleurs par les observateurs de l'OSCE. Et c'est en réponse à ça, c'est pour ça que Poutine n'aime pas utiliser le mot « guerre ». Il ne veut pas qu'on dise qu'il a déclenché une guerre parce qu'il pense que la guerre a commencé bien avant. D'ailleurs, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, vous m'avez posé la question à propos de l'Afghanistan, on a vu ce retrait. Et certains ont pensé qu'on avait perdu la guerre en août 2021. Mais non, on a perdu la guerre bien avant, en fait. Ça n'est que la manifestation. Et c'est un peu le même phénomène qu'on a ici.
Et donc là, pour l'Ukraine et le Donbass, on a 2 minutes avant la fin de cette première partie d'émission. Donc, concentration des troupes ukrainiennes.
Concentration des troupes.
Pour préparer quoi?
Pour neutraliser les forces armées ukrainiennes. Point barre. Et accessoirement, naturellement, Mariupol, les milices, et ça va être dans Kharkov, ça va être la même chose, c'est-à-dire que ces milices ultranationalistes vont être neutralisées.
Mais que préparait l'armée ukrainienne avant que la Russie n'intervienne, Jacques Beau, le 16 février?
La reprise du Donbass et la reprise de la Crimée. Et là, je ne l'invente pas, puisque Zelensky a signé un décret en mars 2021 pour la reprise de ces territoires. Donc, on savait que ça allait se faire. Et on s'attendait à ce que ça se fasse, d'ailleurs. Parce qu'on a reçu les derniers mois de 2021, on avait des informations constantes sur le renforcement des troupes ukrainiennes dans le Donbass, pas à la frontière russe. Ce qui indiquait qu'il y avait effectivement une opération qui était en cours. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les services de renseignement s'accordent à dire que Vladimir Poutine n'avait pas l'intention d'intervenir en Ukraine avant fin janvier, début février. Probablement début février.
Mais pourquoi avoir positionné toutes ces troupes le long de la frontière, ce qui prend du temps? Donc déjà, c'était installé janvier-février. Peut-être on n'a pas le temps de l'évoquer, mais ce sera l'occasion de redémarrer la deuxième partie d'émission sur cette thématique avec vous, Jacques Beau, dont je rappelle le titre de votre ouvrage, « Poutine, maître du jeu ?». On vous retrouve après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Poutine et la guerre en Ukraine, nous retrouvons notre invité, Jacques Beau, ancien colonel d'état-major général, ex-membre du renseignement stratégique suisse et spécialiste des pays de l'Est. Son dernier ouvrage, « Poutine, maître du jeu ?», est paru récemment aux éditions Max Milo. Jacques Beau, on a terminé la première partie de l'émission sur la question du Donbass, où se concentrent aujourd'hui désormais les actions russes en Ukraine. Vous évoquez l'idée que la Russie est intervenue en Ukraine suite à une concentration des troupes de l'armée ukrainienne autour du Donbass pour récupérer le Donbass et récupérer la Crimée. Et vous dites que Vladimir Poutine n'a pris sa décision qu'assez tardivement, finalement, dans l'intervention. Pourtant, il avait déjà amassé des troupes depuis longtemps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Tout à fait. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, Volodymyr Zelensky a pris, pris son décret en mars 24 mars, sauf erreur, 2021. Et à partir de ce moment-là, on a eu dans la foulée un certain nombre de grands exercices qui ont été menés entre la Baltique et la mer Noire par l'OTAN. Et pour les Russes, ça a été un peu une sorte de signal d'alerte. Et ils ont commencé à faire ce qu'on appelle en termes techniques de la gesticulation, c'est-à-dire dire voilà,
on n'est pas dupe.
On n'est pas dupe, on se prépare aussi, on fait quelque chose, on observe, on est là. Et c'est ce qui s'est passé dès mars-avril 2021. Nous avons enregistré seulement les mouvements du côté russe, mais en réalité, ça bougeait aussi du côté ukrainien et du côté OTAN. Et je ne dis pas que les choses étaient nécessairement coordonnées, c'est peut-être pas le cas, mais elles ont été en tout cas simultanées. Et c'était suffisant pour les Russes de s'inquiéter. On a vu une intensification, par exemple, des vols de reconnaissance de l'OTAN, enfin de certains pays de l'OTAN et de l'OTAN, le long des frontières du sud de la mer Noire jusqu'à la Roumanie, etc. Vraiment une intensification des vols de reconnaissance, la reconnaissance électronique, etc. Donc il y avait de quoi inquiéter les Russes, c'est la raison pour laquelle ils ont déployé un certain nombre de troupes. Il y avait des exercices qui étaient prévus conjointement avec le Bélarus à la fin de l'année. Donc, si vous voulez, il y a une dynamique qui s'est créée pour que les troupes soient déployées. Mais c'est intéressant que même les Ukrainiens ont reconnu à la fin 2021 que le nombre de troupes russes n'avait pas augmenté entre mars et décembre. Donc, si vous voulez, les Ukrainiens étaient aussi attentifs à ce qui se passait et ils ont constaté qu'il y a eu ces mouvements de gesticulation consécutifs donc, au décret de Zelensky, mais qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Donc, il n'y avait pas de préparation manifeste à une offensive, ce qui tend à confirmer ce que les autres services de renseignement, et je peux vous dire que pratiquement tout ce qui est dans mon livre a été validé, enfin pas validé parce que je n'ai pas donné à valider, mais est confirmé par des grands services. Donc, il y a eu effectivement un préparatif de part et d'autre, mais pas nécessairement de volonté d'envahir. Il y avait surtout la volonté de dissuader d'une certaine manière.
Alors, doit-on s'attendre sur le Donbass, Jacques Beau, à un affrontement entre troupes ukrainiennes et troupes russes? Quels sont, d'après vous, les risques d'engrenage de ce que d'aucuns appellent ou une guerre totale?
Écoutez, ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est naturellement l'hystérie qui semble dominer dans notre regard de la crise.
Je pense Deuxième fois que vous prononcez ce mot d'hystérie dans l'émission, Jacques Beau.
Oui, parce qu'il y a effectivement, on voit qu'on est au-delà du raisonnable et du raisonné. Et je le sais parce que les services de renseignement ont généralement une appréciation beaucoup plus mesurée des choses, beaucoup plus équilibrée. C'est d'ailleurs ce que j'ai voulu retracer dans mon ouvrage. On le voit très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que le Pentagone aux États-Unis vient compléter les déclarations des politiques en atténuant un petit peu le discours.
Vous pensez au massacre de Boutcha avec le Pentagone qui a affirmé que ce n'était peut-être pas le fait des Russes.
Exactement, par exemple. Ou bien même, d'ailleurs, dans la manière de conduire la guerre, même les responsables du Pentagone ont dit qu'en fait, les Russes retiennent leurs forces et évitent d'atteindre la population civile au maximum qu'ils le peuvent. Donc ça, c'est des déclarations du Pentagone. Et on voit que les militaires, aujourd'hui, ont la crainte que les politiques débordent la situation. Donc, et quand bon, les militaires, d'une manière générale, dans tous les pays, sont des gens qui savent ce qui se passe sur le champ de bataille. Ils connaissent les effets de la guerre. Les politiciens, souvent, malheureusement, l'ignorent. Ils voient ça de manière très théorique. Pour un militaire, c'est très concret. Et je pense que les militaires essayent aujourd'hui d'apporter une certaine rationalité dans le discours sur ce conflit. Et notamment aux États-Unis. En Europe, les appareils militaires ne sont pas habitués à s'exprimer. Voilà.
En tout cas, il est difficile d'y voir clair, Jacques Beau, sur qui est responsable de quoi. C'est vrai qu'en Occident, ce qu'on voit, c'est des images de corps gisants. On nous parle des Russes, qui, etc. Si ce ne sont pas les Russes, ce sont qui? Et c'est peut-être l'occasion, à ce stade de l'émission, de parler des bataillons d'Azov. Peut-être, je ne sais pas, quel est leur rôle aujourd'hui dans ce qui se passe et qui sont les hommes qui en font partie.
Alors, ça, c'est un sujet qui est effectivement, qu'on essaye aujourd'hui un peu, il y a ce que les Britanniques et les Anglo-Saxons appellent un whitewashing, une espèce de blanchiment. Il faut savoir qu'en 2014, l'armée ukrainienne est sortie dans un état pitoyable des affrontements avec le Donbass. En grande partie à cause des erreurs de l'état-major. Mais ça a eu un impact aussi assez important sur la troupe, parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est que les militaires sont trouvés face... Des Ukrainiens sont trouvés face à d'autres Ukrainiens, en réalité, c'est ça. Alors, des Ukrainiens ukrainophones et des Ukrainiens russophones peut-être, mais Ukrainiens tout de même.
Et parfois les deux en même temps.
Voilà. Et donc, il y a eu des problèmes considérables dans l'armée ukrainienne. Beaucoup de suicides, beaucoup de problèmes de drogue, beaucoup de problèmes de discipline interne, une grande désaffection. Et de nouveau, je n'invente rien. Hein, c'est dans les rapports du Parlement britannique que je cite d'ailleurs. Donc, les jeunes ont préféré s'expatrier. D'ailleurs, plutôt que de répondre aux appels de recrutement du gouvernement ukrainien. Donc, il y a eu un réel problème. Et il a fallu compenser un petit peu ce manque d'agressivité de l'armée ukrainienne par rapport au Donbass. Et je peux le dire parce que moi-même, j'ai fait partie d'un programme de l'OTAN pour essayer de redorer l'image de l'armée ukrainienne. Donc, j'ai été spécialement en Ukraine pour ça, d'ailleurs. Bah, c'était un problème. Et les Ukrainiens ont certainement pris les programmes de l'OTAN pour restaurer un petit peu l'image de l'armée ukrainienne. Mais à côté de ça, ce qu'ils ont fait, ils ont recruté énormément de volontaires, des volontaires ukrainiens, mais aussi des volontaires étrangers. Et ces volontaires sont pour beaucoup des gens ultranationalistes, d'extrême droite. De nouveau, je n'aime pas utiliser le terme nazi, mais on n'est pas très loin de tout ça, parce qu'on trouve effectivement une symbolique qui est extrêmement... inquiétantes, des discours extrêmement inquiétants, etc. Et c'est devenu une véritable force en Ukraine, ces groupes, parce que finalement, ce sont eux qui sont les porteurs de la combativité, quelque part, de l'Ukraine. Je ne suis pas sûr que tous les Ukrainiens soient aussi, de manière aussi déterminée contre la Russie, en réalité. Quand on voit d'ailleurs les sondages qui ont été faits l'année passée par les Ukrainiens eux-mêmes, je ne parle pas de ce que pourraient faire les Russes, etc. C'est des Ukrainiens, de nouveau, toutes mes sources sont soit ukrainiennes, soit occidentales. Donc. Mais effectivement, beaucoup d'Ukrainiens ont quand même un regard plus nuancé sur la Russie. Et donc, il a fallu compenser avec ces milices. Et ces milices d'extrême droite, elles ont une histoire qui est effectivement quand même plus que troublante, parce qu'elles nous font remonter jusque dans les années 20 à peu près, à l'époque où l'Ukraine subissait l'emprise des Soviets, littéralement, et où se sont mélangés plusieurs phénomènes, la haine du russe, la haine du communiste, la haine du juif, parce que il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup de juifs dans le NKVD, par exemple. On a beaucoup parlé de l'Holodomor, donc c'est cette grande famine qui était provoquée par Staline dans les années 20 et dans les années 30. Et qui a été mise en œuvre par le NKVD. Le NKVD, c'est donc le ministère d'Intérieur à l'époque, l'ancêtre du KGB d'une certaine manière, qui avait des troupes. Et les dirigeants du NKVD étaient en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie des Juifs. Les exécutants, pas, mais les dirigeants, oui. Mais dans l'esprit, en Ukraine, ça a résonné très fort. Il en est ressorti un antisémitisme qui reste aujourd'hui extrêmement fort dans la population de l'ouest de l'Ukraine. Et d'ailleurs, de nouveau, je n'invente rien, le gouvernement israélien s'est inquiété à plusieurs reprises des ressurgences un peu nauséabondes qu'on avait dans ces groupes paramilitaires. Mais aujourd'hui, ils sont devenus le fer de lance de ça. Et ces gens sont souvent, d'ailleurs, ils ne sont pas nécessairement ukrainiens d'abord. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas nécessairement la compassion pour les Ukrainiens.
Ils viennent d'où majoritairement ?
Oh, ça vient de toute l'Europe. C'est vraiment... on a l'Europe...
D'Europe orientale, l'avantage que d'Europe occidentale ?
Beaucoup d'Europe orientale, mais il y a beaucoup d'Allemands, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Belges, il y a beaucoup de... Il y a un peu tout, hein. Il y a même d'ailleurs des Juifs dedans, d'ailleurs, assez curieusement. C'est assez étonnant, mais il y a des unités juives. Donc, on est sur un anti-russe. C'est pour ça que je n'aime pas le terme nazi, parce que ça ne colle pas. Mais ce sont des gens qui n'ont pas vraiment de compassion pour les Ukrainiens. Ils ont de la haine contre les Russes, mais pas de compassion pour les Ukrainiens. Donc, c'est des gens qui sont un peu capables de faire un peu tout, même si c'est au prix de vie ukrainienne. C'est pour ça que j'écris ce livre souvent plus pour les Ukrainiens que pour les Russes, en fait. Parce que j'ai l'impression que les Ukrainiens payent le prix de cette politique, et même de Zelensky, parce que on a évoqué tout à l'heure les forces au centre desquelles se trouve pris, et j'insiste sur le terme pris Zelensky, et il y a eu des menaces très claires contre lui. On a dit, c'est justement ces milices d'extrême droite qui ont dit, s'il ne fait pas ce que nous voulons qu'il fasse, on l'éliminera. Et ça, ça passait dans la presse, surtout. Ces choses sont connues. Je n'invente strictement rien du tout, et c'est passé dans la presse ukrainienne. C'est pas passé dans la presse russe. Enfin, peut-être la presse russe, j'en sais rien, mais en tout cas la presse ukrainienne. Donc, on a une force qui s'est développée en marge, si vous voulez, de cette lutte contre la Russie, qui devient extrêmement perverse et qui, je pense, aujourd'hui, limite la liberté de manœuvre de Zelensky. Je ne parle pas de ceux qui l'entourent, mais de Zelensky lui-même, parce que lui, je le rappelle, il a été élu sur un programme de paix avec la Russie. Et je suis convaincu qu'il était sincère.
Donc on va vers la bataille du Donbass.
On va vers la bataille du Donbass. On va vers une neutralisation. Je ne pense pas nécessairement une destruction, mais une neutralisation certainement des forces armées ukrainienne dans le Donbass. On va peut-être beaucoup plus vers une destruction des milices, de ces milices paramilitaires. C'est possible qu'elles soient détruites. Mais on va vers une sorte de, comment dire, ce qu'on a appelé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en France, l'épuration. Eh bien, c'est le même phénomène qu'on est en train de voir dans le Donbass maintenant. Et à partir de là, je pense qu'il y aura, les Russes essayent d'avoir une négociation. Enfin, pas seulement à partir de là, je veux dire pendant cela, parce que vous savez, les Russes jouent alternativement entre la guerre et la négociation.
Tout ça se passe en Turquie.
Tout ça se passe en Turquie, exactement. Et là, les Russes le font comme ça. Les Ukrainiens tentent de suivre. Et j'ai parfois l'impression que Zelensky, que nous empêchons Zelensky d'aller vers la paix. Je pense que Zelensky...
Quand vous dites « nous », c'est qui précisément ?
Les Occidentaux, c'est les Occidentaux, c'est l'Union européenne et les États-Unis en premier chef. Je pense qu'il y a certains pays européens qui souhaiteraient qu'on trouve une solution politique à ce conflit. Mais je pense que les forces sont assez importantes aux États-Unis et dans l'Union européenne, mais vraiment dans l'Union européenne, dans l'institution, si vous voulez, les institutions européennes. D'ailleurs, Borrell l'a dit, on aura une solution sur le champ de bataille, ce qui est assez surprenant venant du ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, d'ailleurs. Donc j'ai l'impression que du côté européen, il n'y a pas tellement la volonté d'arriver à une solution négociée. D'ailleurs, à la fin février, à peine Zelensky avait esquissé l'idée d'une négociation avec les Russes, que l'Union européenne est arrivée presque dans les heures qui ont suivi, mais vraiment dans les heures qui ont suivi, avec la décision de débloquer 500 millions d'euros pour des achats d'armes pour renforcer l'Ukraine. Je ne pense pas que l'apport d'armes à l'Ukraine apporte une solution à ça. La situation de l'armée ukrainienne, des forces ukrainiennes, d'une manière générale, est telle qu'aujourd'hui, je pense qu'il est illusoire de penser à une victoire dans la partie est du pays. Mmh. Ce qu'on peut certainement éviter, c'est que la guerre s'étende au-delà ou qu'on pousse les Russes à aller au-delà de la zone. Je ne pense pas que les Russes aient la moindre intention d'aller au-delà de la région, la zone russophone de l'Ukraine. Mais si on les pousse à le faire, si la menace est telle, ils seront obligés de le faire. Et je pense qu'on devrait tout faire pour essayer de figer la situation et essayer de négocier des termes qui permettent une restauration de l'autorité ukrainienne sur ces territoires, mais dans des conditions qui garantissent que toutes les parties, soient, y compris les parties russophones du pays, soient concernées. Parce que on a minimisé un petit peu en Occident la dimension linguistique de la chose. Mmh. Mais voyez, quand aujourd'hui vous voyez la Roumanie et la Hongrie qui s'opposent à la livraison d'armes de l'Europe à l'Ukraine. C'est pas pour rien. C'est parce qu'eux aussi ont leurs problèmes de minorité. Ce sont de toutes petites minorités, ce qui fait qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais en réalité, il y a eu de nombreuses protestations faites, soit par la Roumanie, soit par la Hongrie, à propos du traitement des minorités magyares et roumanophones en Ukraine ces dernières années. On a mis de côté ça parce qu'on a voulu concentrer le conflit sur un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Or, c'était bien un conflit linguistique au sein de l'Ukraine qui a déclenché tout ça. Et il est bon qu'aujourd'hui, on revienne à la situation, si vous voulez, une situation plus saine, où l'Ukraine assume l'existence de ces minorités, leur donne les droits qu'on peut attendre à des minorités au sein d'un État souverain. Mmh. Je vous rappelle que les traités de Minsk, les deux accords de Minsk, ne voulaient pas l'indépendance du Donbass. Ne voulaient pas l'indépendance. Et même, ils l'avaient proposé. C'est juste question d'autonomie.
Alors, tout cela, en tout cas, c'est très important ce que vous venez d'évoquer avec Vladimir Zelensky, qui est plutôt favorable à la paix et finalement se retrouve coincé entre des éléments au sein de son gouvernement, ou en tout cas des institutions ukrainiennes, avec des pousses au crime d'un côté, ou des vats en guerre, et puis l'Union européenne, et peut-être derrière aussi les Américains. Donc peut-être d'éviter une guerre dans le Donbass. Mais vous n'êtes pas très optimiste. La bataille aura lieu. Elle va durer longtemps.
Alors là, je n'ai pas de boule de cristal, mais elle va certainement durer quelques semaines, ça c'est certain. Et elle va certainement, je ne pense pas que les Russes vont abandonner le projet de neutraliser ces forces. Ça, je ne pense pas qu'ils vont, à moins qu'il y ait une négociation qui trouve une solution politique à la chose. Mais sinon, je ne pense pas qu'ils trouveront d'autres. On n'échappera pas à cette bataille.
En guise de conclusion, Jacques Bout, très rapidement.
En guise de conclusion, je pense que c'est un appel à la sagesse quelque part, de part et d'autre, parce que aujourd'hui, on voit, quand on en arrive à exclure les chats, des chats russes, des compétitions félines, je pense qu'on est vraiment effectivement dans une hystérie. Il est temps de revenir maintenant sur quelque chose de plus raisonnable, d'arriver, de tenter de trouver une solution politique. Les choses, est-ce qu'elles sont? Et si on avait voulu éviter la guerre, il aurait fallu l'éviter bien avant, parce que tous les éléments auraient pu être là dès 2015 pour qu'on ait la paix. On n'a pas voulu le faire, donc il faut assumer qu'on n'a pas rempli cette mission auparavant. Et maintenant, l'Union européenne, par exemple, elle n'a pas destinée à être une partie au conflit, mais elle doit rester au-dessus du conflit.
Merci Jacques Bout. Je rappelle que vous êtes ancien colonel d'état-major général et ex-membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est, et vous avez fait beaucoup d'autres choses à la fois au sein de l'OTAN ou des Nations Unies. Et votre dernier ouvrage, Poutine, maître du jeu, est paru récemment aux éditions Max Milo. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Jérémy Boucher. À samedi prochain.